Tout de suite dans le vif du sujet, dans Luc chapitre 15. L'année 2014, c'est l'année où le Seigneur veut que l'on savoure, qu'on ait la révélation de sa grâce, de sa bonté, de tout ce qu'il accomplit à la croix pour nous. Mais c'est une année où le Seigneur nous appelle à libérer l'abondance de sa grâce. Et l'abondance de sa grâce commence par le pardon. L'abondance de sa grâce commence par la miséricorde. C'est une année où Dieu nous appelle à faire miséricorde. Et faire miséricorde, ce n'est pas seulement le dire et poser le pardon. C'est aussi faire des gestes de miséricorde. Et les gestes de miséricorde, ça peut être un soutien financier, un don. Ça peut être le temps que l'on donne pour aider quelqu'un pour une œuvre, etc., etc. Alors pourquoi nous allons lire Luc chapitre 15, un homme avait deux fils? Parce que le Seigneur est en train de nous avertir. Il y a des voix prophétiques aujourd'hui qui nous mettent en garde par rapport à l'esprit religieux. Et l'esprit le religieux, le Seigneur lui déclare la guerre en 2014. Ça va être très fort aussi en 2015. Et qu'est-ce que l'esprit le religieux? Beaucoup, si on demande à chacun, est-ce que tu aimes l'esprit religieux? Tout le monde dira, oh non, je déteste l'esprit religieux. Et on met derrière l'esprit religieux un peu tout ce qu'on veut. Et on va voir que l'esprit religieux, c'est très particulier et c'est féroce. C'est même tueur. Alors, verset 11 de Luc 15, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Cet homme avait deux fils. Il y en a un qui trouve que l'atmosphère de la maison est un peu étouffante. Il porte ses yeux sur ce qui se passe dans le monde. Il a envie de conquérir le monde. Et bien entendu, il a de bonnes intentions. Il a envie de s'exprimer dans le monde. Il a envie de goûter de la vie. Sans doute, le modèle de son frère l'étouffe un peu. Son frère est certainement un modèle extraordinaire. Son frère, c'est un travailleur, c'est un garçon qui se consacre à l'œuvre de son père, c'est un homme remarquable, tout le monde l'admire, tout le monde le respecte, il est prêt à tous les sacrifices. Le jeune fils se dit, waouh, moi je vais planter mes choux ailleurs. Voilà. Donc il ne faut pas forcément voir le départ du fils comme un fils qui a l'intention de vivre avec les prostituées. Je pense que c'est un garçon qui rêve et qui a envie de mettre en application ses rêves. Seulement, malheureusement, on ne peut pas conquérir le monde sans avoir les poches un peu pleines. Alors le fils, sachant que son père, il aura droit à un héritage, il demande l'héritage, ce qui correspond à peu près au tiers de la propriété, des biens de son père, ce qui est pas mal. Alors évidemment, ce qui nous surprend dans cette histoire, dès le début, c'est que le père ne bronche pas, il ne lui dit rien, il dit « écoute mon garçon, tu fais ton choix, je le respecte, c'est ta conviction, c'est ta décision, tu veux aller jusqu'au bout de tes rêves, eh ben vas-y ». On peut être choqué par le silence du père, mais on va voir ce qu'il signifie à la fin de l'histoire. Le père, dans son amour, nous laisse toujours faire les choix, n'est-ce pas? Alors on continue. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ce qui est intéressant dans cette partie de l'histoire, c'est que le fils a été piégé par la séduction. Le fils a été piégé. Et puis, la facilité de l'argent, la puissance de séduction du monde, le fils est en train de se perdre. Et il est parti dans une dérive et apparemment assez rapidement, non seulement il a tout dépensé, mais en plus il y a une famine qui survient. et il devient serviteur de quelqu'un qui apparemment ne l'envoie que pour garder les pourceaux. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Le fils réalise dans le dénuement l'absurdité, l'aberration de sa situation. Le fils réalise, c'est comme si... Il retrouve les pieds sur terre. Il réalise l'aberration. Et il ne pense qu'à une chose, c'est... Il se dit, mais c'est absurde. J'ai pris une direction et je me suis fourvoyé, mais complètement, quoi. Rentrer en soi-même, je crois que Dieu nous appelle souvent, dans les moments les plus difficiles, dans les moments de brisement, de nous rentrer en nous-mêmes. Et de se dire, mais est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que j'ai pris la bonne part? C'est ça l'avantage de cette crise économique, de cette crise de société, c'est que comme tout est en train d'être ébranlé, et l'Église la première doit aussi faire son entrée en elle-même. Ce que nous considérions comme des choses impérissables, nous qui pensions que tout irait bien, eh bien, si nous rêvons trop, quoi qu'il est bon de rêver, alors nous risquons de tomber de haut. Oui, il est bon de rêver, aussi longtemps que les rêves sont les rêves de Dieu. Il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, on pourrait dire, le père est rempli de miséricorde. Oui, c'est la bonté de père qui... est à l'image de la bonté de Dieu qui nous attend. Dieu nous attend. Quand on se fourvoie, Dieu nous attend. Et nous avons autour de nous des gens, des villes, des nations entières qui se fourvoient. Et Dieu les attend. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient au travers de notre communion, notre intimité avec Dieu, que Dieu est là et il attend? Il attend ma famille, il attend mon pays, il attend une nation entière, il attend. Il attend. Et dans son dénuement, le fils n'a toujours pas compris l'amour du père. Et il lui dit, voilà mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils, en quelque part, il se flagelle lui-même. Hein. Traite-moi... Mais le père, il n'a même pas le temps de finir sa phrase. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe. La robe est l'image des œuvres que Dieu nous a préparées de toute éternité. La robe représente la dignité, le signe de ce que nous sommes appelés à accomplir. La robe est toujours en rapport avec l'excellence de ce que Dieu veut que nous accomplissions dans la vie. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau rappelle l'alliance. L'alliance, nous sommes des fils du Père. Nous appartenons à la maison du Père. Amen. Et cette alliance est liée évidemment au sacrifice de Jésus à la croix. Hein, nous sommes à la fois l'épouse qui se prépare pour les noces. Et des souliers aux pieds. Pourquoi les souliers? Parce que les souliers sont en rapport avec l'évangile, le zèle de l'évangile de paix. Derrière les souliers, il y a des cœurs qui se mettent en route. C'est en rapport avec le zèle. C'est en rapport aussi avec notre disponibilité pour servir. Nous devenons disponibles pour accomplir la volonté de Dieu. Et regardez ceci. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Là, c'est intéressant parce que le fils, lui non plus, il est comme le fils aîné, comme le fils cadet, il ne comprend pas l'amour du père. Il n'a pas encore expérimenté l'amour du père. Il est reconnu comme un fils utile, un fils précieux, un fils consacré, un fils droit, un garçon qui passe son temps, qui sert la maison de son père avec zèle, avec conviction, certainement avec excellence. Et en rentrant chez lui, il s'aperçoit que son frère, qui a quand même dilapidé le tiers de la propriété, eh bien, le père est prêt à tout lui pardonner et à organiser une grande fête et à sacrifier le chevreau. Et là, vraiment, le fils est blessé. Le fils est profondément blessé parce que lui qui a tout donné, lui qui a servi avec son zèle, il a cru servir avec son cœur. Mais est-ce qu'on peut servir avec son cœur quand on ne connaît pas le cœur de celui pour qui on sert? C'est là la question. Et le fils n'a pas compris l'amour du père pour son frère. C'est sûr, il ne l'a pas compris. Et non seulement il n'a pas compris, mais il en est blessé. Pour lui, son père lui a ôté la part qui lui revient. Pour lui, son père honore ce fils cadet au lieu de l'honorer lui. Et vous voyez, c'est cela la guerre qui va commencer à partir de 2014 dans les années à venir. Et croyez-moi, cette guerre va être féroce. Et cette guerre va se trouver en plein cœur de l'Église de Jésus-Christ. Cette guerre va être, non pas être entre les catholiques et les protestants, Non, c'est une guerre entre l'esprit de Caïn et l'esprit d'Abel. C'est la même guerre, c'est le même conflit entre deux généalogies. Cette guerre, c'est entre l'esprit religieux et l'esprit de fils. Et cette guerre va être d'autant plus féroce que, en début, l'esprit religieux a toutes les bonnes intentions. L'esprit religieux, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui se donne, c'est celui qui cherche à s'élever par ses propres moyens, mais il ne le dira jamais, avec les valeurs de ses modèles. En fait, il s'élève par ses propres moyens en utilisant les modèles qu'il y a. Le fils aîné, qu'est-ce que l'esprit religieux ? L'esprit religieux s'enracine toujours dans un cœur qui est orphelin. Vous savez, les gens qui ont l'esprit religieux, ce sont ceux qui, il y a eu un temps, c'était autrefois, à un moment, ils ont été en quelque sorte dans le déni d'eux-mêmes, mais au travers de références, ils se sont agrippés, ils se sont battus, et ils ont pu acquérir pas à pas, à la sueur de leur front, l'estime des autres et l'estime d'eux-mêmes. Ne condamnons pas trop vite l'esprit religieux, parce qu'au travers de notre chair, nous sommes tous religieux. Si nous ne le sommes pas, parce que ces deux fils, et là je fais allusion au livre de Pierre Cranga, Un homme avait deux fils, admirable. Ces deux fils représentent une sorte de, comment on appelle ça, typologie, une sorte d'exemple de ces deux comportements humains. Celui qui veut, je veux dire, prendre le large, celui qui veut conquérir le monde avec ses rêves, pour finalement jouir du monde. Celui qui veut se réaliser au travers de la jouissance. Et l'autre qui veut se réaliser au travers de quoi ? Au travers de c'est un peu au travers du sacrifice, au travers du courage, au travers du travail. Le fils aîné, le fils qui est religieux, il n'a pas, ce ne sont pas ses valeurs qui sont mauvaises. Ce n'est pas mauvais ce qu'il fait. L'homme religieux ne prend pas comme ce n'est pas ce qu'il fait qui est mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est sa motivation. Parce que sa motivation ne part pas d'une il n'est pas motivé pour être, je dirais, il n'est pas motivé pour plaire au Père, mais pour se plaire à travers la gratitude du Père. Est-ce que vous voyez la différence ? Il cherche au travers de son sacrifice, en quelque sorte, de s'élever aux yeux de son Père certainement, mais aussi à ses propres yeux. Il cherche à se trouver une valeur au travers de ses bonnes œuvres. C'est ça. Et voyez-vous, la guerre qu'il y a eu il y a, au XVIe siècle entre l'esprit dans l'Église, entre le mouvement protestant, la réforme et l'Église catholique, c'était cette guerre-là. C'est entre l'esprit religieux et, je dirais, l'esprit religieux et entre l'Église catholique et les mouvements protestants. Mais les mouvements protestants qui ont persécuté les Ménonites, qui ont persécuté les Anabaptistes, ont aussi été religieux par rapport aux Anabaptistes. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que l'homme religieux veut imposer sa loi. Il veut l'imposer. Parce qu'il est convaincu d'être dans la vérité. Parce qu'il est convaincu de l'élévation même de son âme. L'homme religieux, là où il se trompe, c'est qu'il ne le fait pas par amour pour le Père. Il ne le fait pas dans la joie du service, mais il le fait dans quoi ? Dans la recherche de sa propre valeur. Au lieu de trouver son identité dans qui il est dans le cœur du Père, écoutez bien ça, c'est très important. Au lieu de trouver son identité dans qui il est pour le Père et dans le cœur du Père, il va trouver son identité à travers l'excellence de ses œuvres bonnes et de ses sacrifices. Ce ne sont pas les valeurs de l'homme religieux qui sont remises en question. Ce ne sont pas les valeurs de ce que les pharisiens défendaient du temps de Jésus. C'est ce que les pharisiens faisaient de la loi. De la loi, ils en faisaient un moyen d'esclavage pour le peuple. Et c'est cela que Jésus a condamné. La loi est là pour servir, mais pas l'inverse. Et ça, c'est extrêmement importante de comprendre cela. C'est très très important de comprendre cela. Et c'est pour ça que l'homme religieux, c'est celui qui, comme celui qui veut réaliser ses rêves, celui qui veut réaliser ses rêves, lui aussi est un orphelin. Ils sont tous les deux orphelins. L'un est orphelin à travers, je dirais, la philosophie grecque d'Épicure. Épicure, c'est un philosophe grec qui disait que la seule réalité, c'est vivre l'instant présent dans la jouissance. Et l'autre, c'est la philosophie aristotélicienne ou platonicienne grecque. On retrouve même dans la philosophie grecque, qui a été profondément marquée de la culture occidentale, européenne en tout cas, on trouve aussi un homme avait deux fils. En fait, moi je crois qu'il en avait un troisième. C'était le modèle de Jésus, n'est-ce pas ? Je crois vraiment qu'il en avait un troisième. Lui seul était vraiment le fils du Père. Mais le fils perdu et retrouvé va pouvoir devenir un fils au travers de son dépouillement, au travers de son brisement. Il va réapprendre à devenir un fils au travers de l'amour du Père. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Alors que le fils aîné, c'est là le drame du fils aîné, Il a le choix entre demeurer, rester un homme offensé, qui toute sa vie va reprocher à son père ce qu'il a fait, hein, ou claquer la porte de la maison, hein, prendre sa part d'héritage et essayer de faire sa vie ailleurs. Le fils aîné, il se trouve devant un choix, essayer de comprendre ce que le père a voulu faire. Et le père va l'aider. « Mon enfant, lui dit le père, verset 31, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Alors ça, c'est extraordinaire. Il dit « tu es toujours avec moi ». C'est-à-dire que la présence de Dieu est toujours avec ceux qui se donnent. Qu'on soit religieux ou pas, la présence du Seigneur est toujours avec ceux qui se donnent. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que nous, parfois, nous, dans notre esprit religieux, nous ne comprenons pas que nous faisons les choses pour nous-mêmes. Dieu dit oui, ce que tu fais, c'est bien. Tu es toujours avec moi, j'ai toujours été là. Et le Père aussi, quand il dit tout ce qui est à toi est à moi, quelque part, le Père est en train de dire, mais n'as-tu pas vu la proximité que nous avions tous les jours, l'un et l'autre? Pourquoi, au travers de cette proximité, n'as-tu pas vu que ce qui était le cœur de cette proximité, c'était la communion et l'amour? Au lieu de cela, de cette proximité, tu as choisi, mon fils, de te donner à moi pour te réaliser au lieu de simplement de te réjouir de ma présence. Et enfin, que dit le Père? Qu'est-ce qu'il dit? Et tout ce que j'ai est à toi, c'est-à-dire que le Père lui-même ne fait pas de différence entre ce qui est à lui et ce qui est au Fils. Eh bien oui, nous, enfants de Dieu, enfants du royaume, notre Père nous a tout donné. Il nous a donné sa parole, il nous a donné son Fils, il nous a donné la puissance du Saint-Esprit avec Jésus. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il nous a donné le royaume. Et il dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Pourquoi il fallait s'égayer et se réjouir? Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur lorsqu'il y a un seul injuste qui s'est converti, un seul pécheur, que 99 justes. Ça nous renvoie à la parabole de la brebis égarée, bien sûr. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Maintenant, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est en profondeur, plus précisément, qu'est-ce que l'esprit religieux? C'est ça le problème. L'esprit religieux a sa racine dans quoi? Dans l'esprit orphelin. C'est pour ça que quel est le mouvement prophétique dans les années 95 a été un mouvement prophétique qui a voulu nous libérer de l'esprit orphelin. Parce que le mouvement de Toronto, c'est par excellence le mouvement prophétique qui nous amène au travers du vin nouveau à quoi? À avoir la révélation au travers de notre adoration, la révélation du cœur du Père, parce que nous sommes appelés, nous sommes des fils. Et c'est important. Il faut comprendre que le plus puissant mouvement prophétique, la fin du XXe siècle, c'est un mouvement prophétique qui nous réhabilite dans notre statut de fils. Et si nous ne sommes pas dans cette réhabilitation de notre statut de fils au travers de la révélation de, non pas de ce que nous faisons tout pour Dieu, mais de qui nous sommes en lui, eh bien alors nous risquons d'être balayés, ou plus exactement d'être emportés par le puissant mouvement religieux qui va se lever dans l'église de la fin des temps. Et vous voyez, c'est très intéressant de comprendre cela, parce que on est exactement dans la problématique du XVIe siècle. Le XVIe siècle, l'enjeu du religieux était autour d'une proclamation de Luther, les 95 thèses de Luther. Il ne faut pas oublier que la réforme va fêter ses 500 ans lorsque Jérusalem fêtera ses 50 ans, c'est-à-dire en 2017, eh bien c'est cela. L'année 2017, c'est une année très importante parce que c'est une année où le monde va entrer dans une guerre entre l'esprit religieux et l'esprit de fils. Il faut comprendre cela. Et l'esprit religieux est se pervertit, c'est-à-dire, oui, il est forcément perverti, il s'infiltre d'une manière étrange dans nos milieux, par plusieurs choses. Par la tentative d'être reconnu dans le ministère, ça c'est religieux. Par la convoitise de rechercher une reconnaissance de l'autre, ça c'est religieux. Parce que le fils n'a pas arrêté de faire cela. Celui qui recherche la reconnaissance de l'autre, pas vous bien sûr, mais celui qui recherche à être reconnu, c'est ça. Une autre façon dont l'esprit religieux se reconnaît, et ça, les églises, toutes les églises passeront par là. Ce sont des personnes qui vont convoiter les autorités pour soit tenter de prendre leur place ou tout au moins avoir un partage d'autorité et de pouvoir pour, en se mettant avec eux. Donc ils attendent. Et si vous ne le répondez pas à leur attente, ils vous accusent d'avoir trahi votre parole ou que vous les ayez abandonnés. Pas vous, bien sûr, pas l'église Josué. Mais au filet du maître, on vit ça. Et l'esprit religieux se manifeste comment encore? Il se manifeste dans l'esprit, et ce n'est certainement pas vous non plus, et dans l'esprit que nous, on a mieux compris que les autres. Nous, on a mieux compris. Nous, si tu n'es pas avec nous, tu es contre Dieu. Nous, on a la bonne part. Nous, on est au-dessus. Il y a beaucoup, la tentation religieuse, je la vois autant dans les grandes églises que dans les églises de maison. Hein? C'est cette idée aussi que aucune église véritablement n'est pas digne de toi. Pas vous, bien, mais je ne parle pas de toi. Le principe même de l'esprit religieux, c'est de croire que c'est l'autre qui est religieux. C'est quand tu... Mais je ne parle pas de toi, rassure-toi. C'est quand tu crois que l'autre est le religieux que tu es déjà religieux. Mais oui, tu manifestes par là que tu as mieux compris. Et le diable sait très bien que nous avons fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. La plus grande ruse du diable dans nos milieux, c'est de nous flatter dans le baptême du Saint-Esprit. C'est de nous caresser dans le sens du poil. Et il nous caresse en disant, tu comprends, tu as la faveur de Dieu, tu prophétises, tu pries en langue, tu es devenu quelqu'un de spirituel. Oh, tu n'es pas spirituel parce que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es spirituel quand tu peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas le don qui te rend spirituel, c'est l'obéissance et le prix que tu payes. C'est-à-dire une marche par l'esprit me libère de l'esprit religieux qui est au centre de l'orphelin pour faire de moi des fils. Amen. Alléluia. C'est ça qui est important. C'est pas assez important. Et de quelle manière l'esprit religieux aussi se manifeste? Parce que l'esprit religieux, en fait, si on regarde bien, si on creuse un petit peu, ne dites pas que je suis le seul, parce que là, vous allez me faire peur. Mais si on creuse un peu notre conscience, on s'aperçoit, voilà, je rencontre des yeux qui me comprennent, hein, qu'il y a parfois quelques lambeaux de religieux. Oh, ce ne sont que du lambeau de l'esprit religieux. Et nous devons faire attention, parce que l'esprit religieux est toujours au niveau de l'offense. Pas vous. De la susceptibilité aussi. Ah. L'esprit religieux aime les honneurs. L'esprit religieux aime les honneurs. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans le ministère, lorsque nous servons le Seigneur dans les affaires, lorsque nous exerçons une autorité dans l'Église, nous sommes toujours, Dieu permet toujours des injustices autour de nous, des dépouillements même financiers, parce que là où l'esprit religieux et perdre son pouvoir, c'est quand tu es dépouillé. C'est quand tu es dépouillé. C'est pas le fils cadet qui pouvait être religieux. C'est pas le fils cadet. Pourquoi ? Parce que là, tu te dis, mais Seigneur, je suis dépendant de ta miséricorde. Je ne suis dépendant que de ta bonté et de ta miséricorde. C'est ça que m'amène le dépouillement. C'est dans le dépouillement que l'esprit religieux est en meilleure, en plus mauvaise posture. Parce que si tu es dans le succès, eh bien, tu as toujours la gloire que te donnent les autres. Oh, qu'est-ce que c'est bien ! Oh là là, mais alors, quel extraordinaire ministère prophétique international vous avez ! Oh, c'est formidable ! Et les frères, les sœurs expriment cela, je dirais, avec leur cœur, mais l'ennemi récupère cela. Pourquoi ? Pour dire, tu vois, et l'ennemi est là derrière moi pour me frotter le dos, là, pour dire, hein, ça fait du bien, hein ? Eh ben oui, ça fait du bien. Voilà, vous l'avez entendu. Et c'est justement parce que ça fait du bien que je me méfie de ça. Ok ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Eh bien, je vous ai donné la réponse. Ça fait du bien. Et c'est là où je dirais, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Si tu veux servir le Seigneur, et là, c'est là où l'esprit, le religieux, n'a jamais de place dans le dépouillement et dans la faiblesse. Et il y a un autre endroit où l'esprit religieux n'a pas de place. Parce que quand tu es dans la faiblesse, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu ? Ta repentance, ça ne suffit pas. Exactement, la reconnaissance, ça veut dire quoi ? De quelle manière tu exprimes ta reconnaissance ? Dans la louange. Dans la louange, dans l'adoration. Et regarde, mais rassure-toi, non, je ne vais pas te rassurer. L'esprit religieux aussi a sa louange. Oh, elle est bien rythmée, rassurez-vous. Il n'y a pas... Mais si tu loues avec les lèvres, s'il te plaît. Pas avec le corps, pas avec les bannières, pas avec les bras, les jambes. Ah, non, tu loues dignement. Hein. Avec un côté un peu constipé, ça passe très bien. Ok ? Tandis que celui qui n'est pas religieux, il va louer comment ? De toute son âme, de toute sa force, de tout son cœur. Et il va exprimer, il va libérer son cœur. Amen. Alors ça fait de la cacophonie évangélique, je suis d'accord. Mais au moins c'est pas religieux. Hein ? Inutile d'augmenter la sono dans ces cas-là. Parce que là, quelquefois, ça fait mal aux oreilles. On est d'accord. Mais c'est bon, merci Seigneur, c'est cela. Alléluia, gloire à Dieu. La louange sort de nos entrailles. Et ça, c'est bon. Parce que quand tu es passionné de Jésus, tu ne peux pas être religieux. Alléluia. Et c'est cela, c'est cela. L'homme religieux, c'est celui qui s'est construit une image de lui-même. C'est celui qui s'est construit une image de lui-même, et en fait, l'homme religieux vit un drame. Il est toujours seul. Parce qu'aucune église n'est digne de lui. Et non. Tu ne te rends pas compte ? Combien de frères, de sœurs, assez naïvement m'ont dit, pas vous, jamais, non. Mais je ne trouve pas une assemblée. Mais tu n'es pas dans une assemblée pour être avec des gens bien. Tu es dans une assemblée pour être avec une multitude de fils cadets. Mais bien sûr, tu n'as pas compris que l'assemblée est normalement une composition de fils cadets. Oh, prostituée, ça fait quand même moche. Eh bien oui, c'est comme ça. Et si tu ne... Là, le grand avantage du fils cadet, c'est ce que Jésus a dit, ce sont les prostituées et les péagés qui vous vous les pharisiens, vous devancerons dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est la révélation même de quoi ? Quelle révélation ? Mais d'être convaincu de péché. Le Saint-Esprit, il est là pour quoi ? Il n'est pas là pour te caresser. La première œuvre que fait le Saint-Esprit, c'est de te convaincre de péché. Jean 16, 8. Et c'est là où le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre de péché. De justice aussi, parce que tu es pardonné, tu es rendu juste au travers de son sang qui a été versé pour toi. On est d'accord ? C'est-à-dire que si moi j'étais quelqu'un de très religieux, allez, je vais tout vous dire ce soir, au point où j'en suis. J'étais religieux. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il a brisé mon ministère. Il a brisé mon ministère pendant 20 ans dans l'église protestante. Chut, il ne faut pas trop le dire. Il a brisé. Il m'a fallu 20 ans pour me libérer. Qu'est-ce que ma réputation a pris, hein ? Mis de côté, des commissions. Parce que l'homme religieux, il y a une chose qu'il ne supportera jamais. C'est quoi ? La mauvaise réputation. Oh là là, qu'est-ce que j'étais sensible à ça ? Pas vous, bien sûr. Qu'on dise du mal de moi. Mais Paul dit quoi ? Heureux êtes-vous ? Jésus le dit. Si l'on dit du mal de vous. Et je peux vous dire, et parce que mon épouse est là, c'est inimaginable, même encore maintenant, le mal qu'on dit de moi. Inimaginable. Je dis, mais quelle imagination les gens peuvent avoir ? Ça part dans tous les fantasmes. Tous, avec un T majuscule. Et je vais vous dire, je ne me défends pas, mais c'est là où l'esprit religieux réagit. Celui qui entend cela, qu'est-ce qui sommeille dans l'homme religieux ? C'est quoi ? Pas vous, toujours pas vous, pas vous, pas vous. Vous êtes en dehors, vous êtes trop saints, mes amis. Qu'est-ce qui sommeille derrière l'esprit ? C'est tout simplement la peur. La peur d'être jugé, pas vous, on le sait. La peur d'être condamné. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est là où on réalise au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là, je ne peux plus dire, pas vous, à quel point, au travers de notre nature charnelle, nous sommes tous religieux. Parce que l'esprit religieux, si nous ne sommes pas religieux, alors nous sommes dans le monde. Et nous avons nos idoles et nos prostituées. C'est ça la réalité. Et pourquoi sommes-nous retrouvés? Nous sommes revenus dans la maison du Père, tout simplement parce que nous avons été tellement dépouillés que nous n'avons pas d'autre issue que de revenir dans la maison du Père. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. Et cette première catégorie des chrétiens, regardez, il y a une multitude, des millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes qui ressemblent au fils cadet. Et il y a, où sont les religieux ? Jamais, véritablement dans le monde, sauf sous la directive des fausses religions et des idéologies. Ils sont toujours dans les fonctionnements religieux, idéologiques. Ils sont là. Et dans l'Église. C'est pourquoi la fausse Église est en train de se lever. Et elle va se lever. Et elle est déjà en train de se lever. Parce qu'elle prend tout le discours prophétique. Pensez à l'esprit d'Élie qui réconcilie le cœur des pères avec le cœur des fils. Il y a, en 95, quand le mouvement de Toronto parlait de l'esprit d'Élie qui réconciliait le cœur des pères avec les fils, qu'est-ce que disaient les religieux à l'époque ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils se moquaient de ce verset. Ils s'en moquaient. Moi, j'ai entendu des messages où on se moquait du vin nouveau. Aujourd'hui, 1995, 2014, on est à combien d'années après ? 20 ans après. Quels sont les premiers qui proclament au nom de l'unité du corps du Christ que c'est le temps de l'Esprit d'Élie qui réconcilie le cœur des pères avec les fils? Ce sont les religieux. Ce sont les religieux. Ils récupèrent toujours ce qui fait bien. Ils récupèrent toujours ce qui fait noble. L'unité. Mais mes amis, l'unité, on n'a pas à la construire. Elle a été scellée au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Relisez Éphésiens chapitre 2, relisez Philippiens chapitre 2, relisez Romains 7 et Romains 8. Amen. C'est exactement cela. En fait, le religieux n'est jamais créatif. Il reprend ce que lui-même il a oublié ou la génération d'avant des religieux avait utilisé. Pourquoi a-t-on condamné Todd Bentley? Parce qu'il a divorcé? Non, le religieux n'aime pas les signes, les prodiges et les miracles. Ça peut paraître fou, mais les miracles sont la plus puissante manifestation de la miséricorde de Dieu sur la terre. Et l'homme religieux doute des miracles. Pourquoi il doute des miracles? Parce que l'homme religieux est toujours dans la suspicion. L'homme religieux, il est toujours suivi de trois autres esprits, comportements. L'esprit raciste, alors raciste, c'est la meilleure des chapelles, c'est la mienne. C'est ça. L'esprit raciste, c'est celui qui dit, moi je suis dans le top. L'esprit de sorcellerie, c'est la manipulation au travers de l'intimidation. Ou manipulation ou intimidation. Ensuite, esprit raciste, esprit de sorcellerie et esprit de pauvreté. Ou l'esprit victimiste. Quelque part derrière l'homme religieux, il y a une victime. Et la victime, c'est de dire quoi? Je me suis consacré. C'est pour ça, si tu résistes à l'homme religieux, si tu as l'outrecuidance de ne pas lui laisser une place, de ne pas partager avec lui l'autorité que Dieu t'a donnée, alors il se retournera contre toi, il te calomniera. L'homme religieux est un homme qui est comme errant sur la terre parce que c'est un orphelin. Voilà les conflits que je vois depuis 8 mois dans les églises, partout où je vais. En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, partout. Et la seule remède à cela, je le dis, c'est être passionné de Jésus. Ouais. C'est être convaincu de péché. Car ce n'est pas l'image que tu as de toi-même qui compte. C'est quoi? C'est la révélation de l'amour de Jésus et du Père pour toi. Nous devons nous libérer des images que nous avons de nous-mêmes. Quelque part, l'homme religieux, il se réfugie parfois. C'est une sorte de contre, c'est une sorte de réaction parce qu'il a peur de l'image négative de lui-même. Il fuit la culpabilité, il se sent coupable et il réagit à sa culpabilité. L'orphelin est toujours coupable, se sent toujours coupable. Il réagit en prouvant sa valeur dans l'excellence de ses actes. Amen. Seigneur, libère-moi de l'esprit religieux. C'est cet esprit-là, dans les décennies, dans les années qui vont venir, c'est cet esprit-là qui va cruellement persécuter les enfants de Dieu. Car la persécution, elle aura sa racine dans la maison. Elle partira de la maison de Dieu. Et la seule chose que nous pouvons faire, parce que pourquoi? C'est l'année de la grâce, mais c'est aussi l'année où le Seigneur met en lumière l'esprit religieux. Il met plus une assemblée est dans l'adoration, plus une assemblée est dans le prophétique, plus elle est amenée à confronter l'esprit religieux. En autre partie, plus une église est dans le mouvement religieux, plus elle va être face à la crise, face à tout ce qui se passe, elle est amené à proposer ce qui a déjà été accompli à la croix. L'homme religieux n'a pas compris la croix. tout est accompli. Et lui, le tout accompli de Jésus, il ne l'acceptera jamais pour une raison simple, pour une raison toute simple. Il n'accomplira pas parce que lui veut tout accomplir à la place du Seigneur. Il n'est pas dans qui je suis en Christ, mais quel est, j'ai envie de dire, quelle est ma destinée, quelle est ma destinée. Non, c'est pas quelle est ma destinée, c'est plutôt quelle est la destinée de Dieu en moi. C'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'il y a une grande bataille. Dieu est en train de va commencer à nettoyer son Église. Il a commencé depuis plusieurs années. Actuellement, il y a véritablement une confrontation spirituelle entre l'esprit religieux. Et pour échapper à cela, il faut que chacun de nous puissions sonder notre conscience, nous puissions demander, parce que l'esprit religieux, il se nourrit de quoi? De la fausse image qu'il a, l'image. Il se nourrit particulièrement de qu'est-ce qu'un orphelin. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. C'est celui qui n'a pas. L'homme religieux se nourrit du manque de relation, d'amour, de cœur à cœur avec le père. L'homme religieux, il se nourrit. Et du coup, même vis-à-vis de son prochain, il est toujours dans un rapport de force. Et toujours dans ses rapports de force. Pourquoi j'apporte ce message? Parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de nous apprendre à plus tu discernes les racines de l'homme religieux en toi, plus tu discerneras le mouvement religieux qui va se lever dans le monde. Parce que c'est au travers de l'esprit religieux que le Seigneur va nettoyer sa maison. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que ça marche. C'est au travers. Vous savez, s'il y a une nouvelle réforme qui se lève, c'est forcément une réforme qui confrontera l'esprit religieux. Et là où l'esprit religieux a le plus horreur, c'est par excellence de l'esprit prophétique. Il n'acceptera de l'esprit prophétique que si l'esprit prophétique va dans le sens du poil. Ah, sinon, alors là. Il n'aime pas beaucoup l'esprit prophétique parce qu'il a peur que l'esprit prophétique le dévoile, en fait. Seigneur, je voudrais te prier maintenant. Je voudrais qu'on prie maintenant. Seigneur, tu es le roi de gloire. Avant de condamner une partie de l'Église de l'esprit religieux, rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est quand tu crois que l'autre est plus religieux que toi, que tu es religieux. Parce que la question n'est jamais dans la relation de savoir si ton frère est plus religieux que toi. La question, c'est de savoir, l'homme religieux est toujours dans la critique, pas toi bien sûr, dans le jugement, pas toi. L'homme religieux essaie toujours de se prouver à lui-même qu'il n'est pas plus mauvais, plutôt mieux que l'autre. Pas toi, on le sait bien. Seigneur, pardonne-nous d'être encore des orphelins. Pardonne-nous de nous comporter comme des orphelins, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de ne pas comprendre que ce ne sont pas tous nos sacrifices que nous faisons pour toi qui sont importants, mais c'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit en moi, au travers de l'obéissance auquel le Saint-Esprit m'appelle, que le Saint-Esprit peut alors faire son chemin dans mon cœur et dans mon âme, afin de m'aider à abandonner à la croix de Jésus toutes mes glorioles au nom de Jésus. Heureux es-tu quand tu es condamné, quand tu es... Amen, alléluia. Pardonne-nous, Seigneur, d'être susceptibles. L'homme religieux est dans l'offense. Et le système, le fonctionnement occidental, matérialiste, a effroyablement pervertit l'Église de l'esprit religieux. L'esprit matérialiste, l'esprit individualiste de la société occidentale a amené l'esprit religieux à l'extrême. À l'extrême. Chacun est dans sa bulle. Chacun est dans son, je dirais, le fantasme de qui il croit être. Chacun est de sort d'une sphère. Et le Seigneur Jésus nous apprend à être ensemble. Pourquoi avons-nous en Occident tellement de mal? Sur 100 chrétiens, seulement 30 à 40% des chrétiens peuvent être ensemble. Le fait même d'expérimenter la communion fraternelle est le témoignage que nous sommes peut-être un peu religieux, mais que c'est le témoignage que nous ne voulons pas être religieux. Parce que la meilleure antidote à l'esprit religieux, après être convaincu de péché, c'est la communion fraternelle. Parce que l'Église, elle te rabote l'esprit religieux en toi. Elle te... Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'es pas dans une église de maison, dans une assemblée, parce qu'elle te plaît. Tu y es tout simplement parce que Dieu te demande d'y être. Apprends à faire la différence. L'homme religieux cherche à justifier ses comportements. Il cherche à faire ce qui lui plaît en disant mais Dieu m'a dit que, mais en fait ce qu'il fait c'est ce qui lui plaît. Ça c'est typiquement l'homme religieux. Combien de chrétiens m'ont ramené de ces fausses prophéties en disant Dieu m'a dit d'aller là, alors qu'en fait ils sont bien contents d'aller là parce que non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et que si tu es dans une assemblée c'est pas parce qu'elle te plaît, c'est parce que Dieu t'y amène. Alors peut-être que il te faudra un certain temps pour entendre la voix du Seigneur, mais tu n'es pas là où ça te plaît, tu es là où Dieu t'appelle à être. C'est l'obéissance. Et cette obéissance, pour l'homme religieux, l'obéissance va avec ce qui lui plaît. Pour le chrétien, né de nouveau, l'obéissance doit aller avec la mort à soi-même, avec la marche par l'Esprit. Prions. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons encore des racines religieuses au fond de nous-mêmes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes tellement sensibles à l'offense. Nous reconnaissons que dans notre civilisation, nous avons été piégés par l'esprit religieux. Mais nous reconnaissons aussi, Seigneur, que même si nous avons des racines religieuses, nous les refusons au nom de Jésus. Nous les refusons profondément, parce qu'il n'y a que toi que nous voulons. Seigneur, nous ne voulons pas nous voulons pas être paresseux, nous voulons persévérer, non pas dans les bonnes œuvres, bien que Dieu nous ait prédestinés pour accomplir des œuvres qu'il nous a préparées avant même la création du monde. Non, nous voulons avancer ensemble, Seigneur. Et nous voulons nous présenter devant ton trône, dans l'adoration et dans la louange. Est-ce que je peux avoir un peu de musique? Est-ce que,